I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imaginé par Binge Audio. Salut. Vous qui nous écoutez, peut-être que depuis votre naissance, les autres vous considèrent comme dépendante ou dépendant, ayant des besoins spécifiques. Peut-être que les autres vous considèrent comme handicapé. Ou alors peut-être que vous avez, de valide, basculé dans cette autre catégorie, d'un coup ou progressivement. Peut-être aussi que le handicap, le validisme, vous pensez que ça vous est tout à fait étranger. C'était mon cas. J'ai déjà pensé, par exemple, les pauvres, ou j'espère que ça ne m'arrivera jamais, ou on va quand même pas modifier toute la façon dont on construit les logements pour les adapter à une toute petite minorité, imagine la galère pour les bâtiments historiques. Et surtout, j'ai mis trop de temps à prendre conscience que les luttes handi avaient tout à voir avec les luttes féministes et toutes les luttes contre toutes les dominations. Et qu'il y avait bien des choses à dire et à penser sur cette intersection, au croisement entre la masculinité et le handicap. Les couilles sur la table, épisode 83. Vous nous écoutez dans tous les cas certainement depuis la France, où 12 millions de personnes, soit une personne sur cinq, est porteuse d'un handicap, qu'il soit moteur, sensoriel, comme visuel, auditif, psychique, mental, ou bien une maladie invalidante. La France, c'est aussi ce pays qui continue d'encourager prioritairement l'enfermement des personnes handicapées dans des institutions spécialisées contre toutes les recommandations internationales. C'est de tout cela dont on va parler dans cet épisode avec mon invitée, Charlotte Puiseux, autrice d'un essai paru en septembre 2022, de chair et de fer, que j'ai trouvé vraiment remarquable, précis, argumenté, très fluide à lire aussi, où elle démontre à quel point le système patriarcal s'entremêle avec le système validiste et avec tous les autres systèmes d'oppression. On va tous mieux comprendre pourquoi l'accessibilité des bâtiments, des pratiques culturelles, des lieux de fête, etc., c'est un grand enjeu politique. Revenir ensemble sur les débats autour de l'assistance sexuelle, comprendre ce que le handicap fait au genre et voir comment, une fois de plus, il nous faut sortir de la binarité sur ce sujet et comment c'est à partir de la marge qu'on peut réinventer un monde bien meilleur pour toutes et tous. Bonjour Charlotte Puiseux.
Bonjour.
Charlotte Puiseux est docteur en philosophie, militante anti-féministe, membre du collectif Les Dévalideuses. Elle est aussi mère d'un enfant et aide d'autres femmes handi à devenir parents grâce à son rôle de maman relais dans l'association Handi Parentalité. Dans son essai « De chair et de fer », elle écrit « Quand on est handi, on sort de l'ordre du genre et du sexe ». Alors je commence par lui demander ce qu'elle entend par là.
Bah déjà, comme on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes handi, les personnes handi sont désexualisées. Donc déjà, elles sont sorties en fait de tout ce qui est de l'ordre du sexuel et souvent par extension de tout ce qui est de l'ordre du genre. C'est des personnes qui sont souvent infantilisées, qui apparaissent comme des enfants. Avec tout ce côté angélique, gentil, mielleux, qui fait bien tout ce qu'on lui dit, qui est très obéissante, tout ce côté-là, quoi. Déjà, la désexualisation des personnes handi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les témoignages de personnes handi qui parlent de ça. Elles vous raconteront qu'elles ont vécu multiples expériences dans ce sens-là.
Et aussi qu'elles se sentent pas forcément hommes ni femmes, mais qu'elles se sentent... En fait, leur première identité, c'est Andy, en fait.
Bah justement, là, Nohanger, qui est une artiste, Andy, chercheuse aussi, qui est docteur en philosophie, il me semble, et qui a fait tout un travail artistique, et qui tient un blog aussi, du coup, raconte dans un de ses textes cette expérience de drag king qu'elle a faite. Et elle explique, en fait, que...
De drag king, donc elle performe le genre masculin en se grimant, en se déguisant, en modifiant son aspect physique et sa façon de se tenir et de se comporter.
Ouais, en prenant les codes de la masculinité, justement. Et donc, elle a un handicap très visible, hein, comme le mien. Elle est identifiable tout de suite comme socialement comme personne Andy. Elle trouvait un plaisir en fait à être identifiée comme un homme Andy et non plus comme une femme Andy. Enfin, elle n'était pas du tout perçue pareil selon qu'elle était perçue femme ou homme, et que du coup elle se pose plein de questions en fait sur est-ce que si elle avait été homme, enfin assignée homme à la naissance, est-ce que justement on l'aurait rééduquée pareil? Parce que justement, elle peut marcher un peu, donc elle a subi des séances de rééducation pour marcher, etc. Donc du coup, elle s'interroge sur, par exemple, la marche qui n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes, avec les femmes qui doivent avoir une certaine grâce, agilité, etc.
Donc elle a été rééduquée en ce sens-là, alors voilà. Que pour les hommes, ce n'était pas
c'est
du tout
ça,
une question.
Exactement. Okay. Et que du coup, elle se pose des questions sur justement l'impact de son genre, sur comment on l'a traitée en tant que personne handicapée.
En quoi la condition des hommes handicapés, elle diffère de celle des femmes handicapées, par exemple, pour celles qui sont en fauteuil ?
Ah, c'est compliqué, mais... Parce que c'est vrai que, comme socialement, les femmes vont être plus associées à des personnes, justement, douces, gentilles, soumises, etc., en fait, on trouve des hommes valides qui trouvent de l'excitation chez... spécifiquement des femmes handicapées parce qu'ils vont associer cette docilité, cette soumission de la femme au handicap, et ça va encore plus multiplier cette soumission, cette docilité, et ça va donc être encore plus excitant pour eux. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle notamment les dévots, par exemple. C'est le nom spécifique qu'on donne aux hommes valides hétérosexuels qui trouvent du plaisir dans des relations sensuelles, sexuelles avec des femmes handicapées.
Qui trouve du plaisir, c'est cool, mais qui trouve du plaisir uniquement dans ces relations-là, c'est ça ? Ou du plaisir qui fétichise ces personnes-là ?
Oui, c'est une forme de fétichisation,
okay.
Exactement.
D'accord.
C'est ça, ouais.
Ok.
Je pense que les hommes handicapés, eux, ils sont vraiment à l'opposé de ce qu'on attend de l'homme valide, à savoir être fort, être...
L'autonomie, des qualités viriles qui apparaissent en contradiction avec le handicap. Donc l'autonomie, la force, la puissance, la capacité à se mouvoir et...
Oui, la puissance musculaire, puis y compris aussi dans la sexualité, la position dominante, toutes ces images qui sont associées à la masculinité. Pour le coup, là, c'est vrai que beaucoup d'hommes se sentent exclus, dépossédés, voire ont totalement intériorisé, en fait. Ça a un énorme impact sur l'estime de soi, ça c'est sûr, parce que du coup, on intériorise tout un tas d'images négatives qui circulent, des images validistes qui circulent dans la société. Par exemple, pour la question des hommes handis, Pierre Dufour en parle dans son livre, justement.
Pierre Dufour, qui est
un chercheur sociologue handi, qui a fait une thèse spécifiquement sur, justement, les hommes en fauteuil, comment ils vivaient leur masculinité. Et il a recueilli pas mal de témoignages dans son bouquin. Et du coup, il montre que les hommes intériorisent cette idée qu'ils sont hors jeu de la sexualité et que du coup, en fait, quand ils ressentent du désir, ils se sentent coupables, en fait. Parce qu'on leur a tellement dit qu'en tant que personne handicapée, ils ne devaient pas en ressentir, que ce n'était pas normal. Donc, en fait, il y a une culpabilité qui s'installe parce que, si, ça leur arrive de ressentir des choses. Et du coup, ils ont une estime d'eux-mêmes très faible.
À la fois, les hommes handicapés, on retrouve aussi des caractéristiques, en fait, dans leurs conditions de vie qui rappellent celles de la masculinité dominante, notamment une chance moindre de subir des violences. C'est en fait les personnes qui subissent le plus de violences, ce sont d'abord les femmes handies, et aussi une intégration meilleure sur le marché du travail, non ?
Oui, leur taux de chômage est moins fort que celui des femmes handicapées. Alors après, voilà, quand on prend personne valide, personne handicapée, globalement, on voit que les personnes handicapées sont beaucoup plus au chômage. Mais après, si on détaille à l'intérieur, en effet, les hommes handicapés subissent moins le chômage que les femmes handicapées. Donc oui, il y a aussi un effet de genre au sein même de la catégorie handicapée. Après, la question des violences, oui, bah ça, c'est clair que justement, on parlait des liens avec le féminisme aussi. Les femmes handicapées sont la catégorie la plus victime de violences. Et c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler dans les politiques de prévention et voilà, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une relation spécifique des hommes dits valides avec les femmes handicapées, ou en tout cas une dynamique particulière de relation qu'on retrouve plus souvent que dans le sens inverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bah parce qu'en fait, du coup, chez les hommes valides, l'expérience de la masculinité, elle va aussi se faire à travers justement des relations sensuelles, sexuelles avec des femmes handicapées qui sont perçues comme plus soumise, plus docile, voilà, toute cette idée-là. Et du coup, ça va permettre à ces hommes, en fait, de revaloriser leur masculinité en tant qu'hommes valides. Ça met, par exemple, notamment les personnes assignées femmes handicapées dans des situations de dépendance et de vulnérabilité. Mais pour le coup, c'est cette construction sociale qui accentue énormément cette vulnérabilité et cette dépendance affective. Et du coup, bah, dès qu'une... En l'occurrence, un homme valide va s'intéresser à elle, peu importe la raison. Enfin, du coup, elles vont rentrer dans cette idée que voilà, on s'intéresse à moi, je dois accepter certaines choses qu'on n'accepterait pas en temps normal, qu'une femme valide, voilà, ayant un peu l'habitude des relations amoureuses et sexuelles, n'accepterait pas. Parce qu'elle aurait une idée du consentement, elle aurait une idée de, un peu plus précise de ce qu'elle est capable d'accepter ou pas, de connaître son corps, etc., etc. Oui, quand il y a un homme valide qui agresse une femme handicapée, ben, c'est pas forcément perçu comme une agression, y compris par la femme handicapée elle-même, et ensuite par l'entourage aussi. C'est-à-dire que quand la femme handicapée va quand même se dire ah ouais, c'est peut-être passé quelque chose de pas bien, qu'elle va en parler, ça va être très mal reçu, en fait. On le voit dans plein de témoignages sur ces questions où, du coup, les femmes qui en parlent, elles se voient retourner. T'as quand même de la chance qu'ils se soient intéressés à toi. T'es sûre que c'était vraiment une agression ? Parce que, bon, t'as de la chance que quelqu'un t'ait trouvé jolie, ait eu envie de toi. Alors, voilà, après... La question des dévots, c'est les hommes valides hétérosexuels qui trouvent du plaisir dans des relations sexuelles avec des femmes handicapées, parce que c'est vraiment une catégorie qui s'est créée sur ces questions-là. Alors en France, on en parle très peu. On en parle plus dans les pays anglo-saxons, mais ça, c'est une vraie communauté. Il y a des sites internet, il y a toute une communauté autour du dévotisme. Bon, ça rejoint un peu la question du travail du sexe, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on parle du dévotisme, on présente toujours les femmes handicapées comme des victimes de ces dévots. Parce que justement, les femmes handicapées, elles sont présentées, oui, comme vulnérables, comme faibles, parce qu'aussi, les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent font qu'elles sont vulnérables. On leur donne pas de revenus économiques, taux de chômage très élevé. Donc certes, elles sont handicapées, mais en fait, leur vulnérabilité, elle est totalement exacerbée par les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent, la désexualisation dans laquelle elles grandissent, etc. Donc oui, quand un homme va s'intéresser à elles, elles vont pas les percevoir de la même façon qu'une femme valide, qui connaît les codes de la séduction, qui a l'habitude, entre guillemets, d'avoir ce genre de relation. Donc là, la femme handicapée, c'est vrai que souvent, elle peut paraître plus vulnérable à ce genre de personnes que sont les dévots. Mais du coup, pendant ma thèse, je m'étais intéressée un petit peu à ces questions, et c'est vrai que j'avais aussi trouvé pas mal de personnes assignées femmes handicapées, travailleuses du sexe, qui justement profitaient de ces dévots comme clients, en fait. C'était leur, leur clientèle. Donc du coup, il y avait un retournement comme ça de la prise de pouvoir où elles se présentaient plus comme des femmes faibles, vulnérables, qui croyaient au prince charmant alors que c'était des dévots, en fait. Non, en fait, c'était des travailleurs du sexe qui profitaient justement de cette fétichisation que pouvaient avoir les dévots pour gagner leur vie et pour sortir de cette fameuse précarité dans laquelle la société les condamne souvent.
Juste pour terminer avec cette histoire de dévots, je n'avais jamais entendu parler de ce terme-là. Est-ce qu'il y a autant de dévotes que de dévots ?
On ne parle jamais de dévotes. Hein. Moi, je... De femmes valides, attirées sexuellement, enfin, fétichisant le handicap d'hommes handicapés. Jamais croisé cette...
Et pourtant, il y a plus d'hommes handis en couple que de femmes handis en couple.
Alors, pour beaucoup, ce qu'on voit beaucoup circuler dans les récits, dans les cas où c'est l'homme handi en couple avec la femme valide, c'est plus du côté de la soignante, en fait. L'infirmière, la soignante, qui va se mettre en couple avec son patient handi. Et donc, du coup, il y a... Même quand ce n'est pas forcément le cas, il y a plus cette idée-là qui circule en fait, dans la société de la femme valide qui va se mettre au service de son mari handi en termes de soins.
En fait, de façon un peu provocatrice, je pourrais dire, bon, d'accord, donc il y a des dévots, c'est sympa, des dévots, voilà. Mais en fait, vous dites non, c'est une forme de, pareil, de déshumanisation en fait, pour les femmes handicapées.
Après, je pense que la question, ce n'est pas tant du point de vue des dévots. Moi, à la limite, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu. C'est la question, c'est les femmes handies qui sont au contact de ces dévots. C'est qu'est-ce qu'elles font de cette relation, comment elles l'aperçoivent. Voilà, est-ce qu'elles sont utilisées ou pas ou est-ce qu'au contraire, elles peuvent reprendre le pouvoir sur cette relation. Moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Après, je n'ai pas d'avis spécifique sur le dévot en lui-même. Et j'aime pas dire ouais, telle pratique est bien ou mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la femme en dit, elle perçoit cette relation et justement de lui donner les possibilités de la vivre en étant puissante et pas dans la soumission et de qu'elle puisse se réapproprier cette histoire comme elle a envie de s'en réapproprier, quoi.
Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de validisme. Donc, je demande à Charlotte Puiseux, comment est-ce qu'elle l'explique à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler ? Est-ce qu'il y a une définition brève de ce que c'est le validisme ?
Pour être brève, c'est le système d'oppression qui touche les personnes handicapées. Donc après, pour développer un tout petit peu quand même, c'est, comme on disait, il y a une binarisation qui s'installe avec les personnes handicapées d'un côté opposées aux autres, les personnes valides. Et en fait, le problème de cette binarisation, c'est qu'elle crée une hiérarchie des vies, en fait. C'est-à-dire qu'on estime que plus une personne va être handicapée, en gros, et moins sa vie va être valable. Plus ça va justifier des mauvais traitements sociaux, qui peuvent être très vastes. Hein. Ça peut être des traitements très violents, on peut même aller jusqu'au crime, hein, voilà. Mais ça peut aussi être des discriminations, on va dire, quotidiennes, quoi. Ne pas pouvoir trouver un logement, ne pas pouvoir s'inscrire à l'école, ne pas avoir trouver un travail.
Ne pas pouvoir se déplacer,
voilà, se parce que les transports en commun, exactement, se faire des amis, des amoureuses. Ça peut être des discriminations, j'ai envie de dire... banale et quotidienne, quoi. Donc le validisme, c'est un système parce qu'il touche toutes les sphères de la société, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose qui fait système, c'est le cas de dire. Il instaure cette hiérarchie qui est vraiment, qui est vraiment la base de ce système validiste, c'est que la vie des personnes handicapées vaut moins que celle des personnes valides.
Et quand vous dites binaire, que c'est aussi un système binaire, c'est aussi un système qui dit que soit on est valide, soit on est handi. Mais il n'y a pas de. Comme s'il n'y avait pas de continuum, alors qu'en fait, il y a un continuum entre les deux.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une opposition. En fait, être handicapé vous exclut obligatoirement dans le système validiste de la validité, et vice-versa, être valide vous exclut forcément de l'identité handicapée, alors qu'en fait, on se rend compte, si on cherche un peu, que ces deux identités, qui sont des identités socialement construites, peuvent cohabiter chez une même personne, des fois à des endroits différents de sa vie, mais des fois même au même moment de sa vie, en fait.
Est-ce qu'on peut donner un exemple de ça?
Par exemple, pour illustrer ça, ce qui est assez parlant, c'est les personnes qui ont des handicaps invisibles. C'est-à-dire qu'en fait, elles se présentent socialement comme des personnes valides. Dans la société, on va les percevoir comme telles, comme des personnes valides, alors qu'en fait, elles ont un handicap, mais qui ne correspond pas à ce que socialement on attend d'une personne handicapée. Donc en fait, ça crée un décalage qui peut être très très compliqué à gérer pour les personnes concernées, parce que du coup, elles sont souvent, je ne vais pas dire toujours, mais parce que je ne pourrais pas prétendre avoir discuté avec toutes les personnes qui ont un handicap invisible, mais c'est quand même un sujet qui revient très très fréquemment, c'est est-ce que je le dis ou pas? Est-ce que je dis à mon employeur? Est-ce que je dis à mes amis? Est-ce que je dis à mon entourage que je suis handicapée? Parce qu'en fait, je passe pour une personne valide, donc je bénéficie d'un privilège en tant que personne valide, mais au coût d'efforts tellement énorme, qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas si bonne idée que ça.
Pour illustrer de ce que ça peut être comme cas d'handicap invisible, c'est par exemple les personnes qui sont sur le spectre autistique et qui arrivent à passer quand même comme des personnes valides.
Oui, ça peut être tout un tas de handicaps. Ça peut être aussi des handicaps physiques qui vont, par exemple, engendrer de la fatigabilité. Et aussi, par exemple, des maladies comme l'endométriose aussi, ou qui peuvent engendrer des douleurs, la fatigue. Les douleurs et la fatigue, c'est deux phénomènes qui se retrouvent beaucoup dans les handicaps invisibles aussi, parce que c'est quelque chose qu'extérieurement, on peut avoir du mal à palper. C'est la personne concernée qui ressent ses douleurs et sa fatigue. Donc c'est vrai que quand c'est les symptômes du handicap, extérieurement, on peut dire « est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a vraiment mal? Est-ce qu'elle est vraiment fatiguée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu feignante ?»
À quoi ça ressemblerait, par exemple, une architecture, une ville ou des politiques publiques qui ne seraient pas du tout validistes concrètement? Comment ça changerait l'environnement autour de nous?
Il y a la question de l'accessibilité, des normes d'accessibilité qui ne sont pas respectées. Pour donner des exemples très concrets, en 2015, du coup, il devait y avoir le volet accessibilité de la loi de 2005 qui devait être clos. Enfin, on devait avoir rendu tous les lieux publics accessibles en 2015. Inutile de dire qu'en 2015, c'était loin, très, 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 très loin d'être le cas. Donc, au lieu de devoir payer des amendes comme c'était prévu, les lieux pas accessibles, l'État a juste dit on va prolonger le délai d'accessibilité. Donc, en fait, ça, c'est un choix politique. On a décidé politiquement que l'accessibilité des lieux publics, c'était finalement pas si important et qu'on n'allait pas investir ni les moyens financiers, humains ou quoi que ce soit pour le mettre en exécution. Pareil pour la loi Elan. À la base, tous les logements neufs devaient être accessibles. Et finalement, la loi Elan a dit que non, on allait faire que 10% des logements neufs accessibles, les autres seraient évolutifs. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a des conditions, il ne faut pas que ça fasse plus de 5 étages pour avoir des ascenseurs. Il y a tout un tas de trucs complètement aberrants qui, en fait, font que le parc neuf, on parle du parc neuf, va pas du tout être totalement accessible. Donc en fait, aujourd'hui, on construit des apparts qui ne vont pas être prévus pour des habitantes handis. Et en fait, on dit on verra si une personne handie, on fera des logements évolutifs. Sauf qu'en fait, ça coûte vachement plus cher de faire des logements qu'on va ensuite modifier si une personne handie vient, alors que si on avait prévu l'accessibilité dès le départ, en fait, ça coûte très peu d'argent. Y a des enquêtes.
Et pourquoi ils l'ont pas fait alors?
Parce que c'est des lois validistes. En fait, ils estiment que c'est pas. Que ça concerne pas assez de gens, que c'est pas pour eux leur priorité, en fait.
Est-ce que ça concerne énormément de monde, par exemple, la question de l'accessibilité?
Ce qu'on disait tout à l'heure, ça concerne tout le monde potentiellement. En fait, c'est juste des lois aberrantes. De toute façon, on estime nos vies moins valables et on n'est pas, du coup, les politiques et les moyens pour que ça change.
Oui, en fait, la plupart des lieux publics dans ce pays ne sont pas accessibles.
Puis il y a la question des institutions spécialisées aussi, qui est quand même un gros bloc des luttes anti-validistes, qui est juste un exemple effroyable du validisme. C'est-à-dire qu'on estime que les personnes handicapées, on doit les regrouper dans des lieux spécifiques qui correspondent le mieux à leurs besoins spécifiques.
J'ai jamais compris cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quel est le... Comment ça, des besoins spécifiques? De quoi?
Parce qu'en fait, on part du principe que les personnes handicapées sont dépendantes, sont fragiles, Bon, comme si les autres n'étaient pas, hein, mais parce que moi je dis toujours, mais la dépendance, la fragilité, ça fait partie de la condition humaine et on est toutes et tous dépendants à un moment donné, plus ou moins fragiles à un autre moment. Donc en fait, voilà. Mais sauf que quand ça touche une personne qui n'est pas identifiée comme handicapée, à savoir qui est plutôt identifiée comme valide, bah, ça va être essentialisé, encore une fois, ça va être passé. Enfin, effacer, quoi. Alors que quand c'est une personne handicapée, là, ça va être stigmatisé. Donc,
Vous voulez dire que je suis pas plus autonome que vous ?
On pourrait le penser comme ça, ouais.
Vous êtes pas plus dépendante que moi ?
Non, pas forcément.
Bien sûr. Ok. Et en plus, ça dépend des moments de la vie, exactement, de comment, etc. Si j'avais, par exemple, un jeune enfant, bah, je serais plus dépendante.
Exactement.
Bien sûr.
Moi, j'aime bien dire, par exemple, si on n'avait pas les supermarchés avec toutes ces personnes derrière qui organisent l'achalandage des rayons, comment on ferait pour se nourrir, en fait ? Enfin, s'il n'y a pas toute cette agroalimentaire derrière, on ne pourrait pas se nourrir. S'il n'y avait pas ces médecins, on ne pourrait pas se soigner quand on a la grippe, le Covid.
Donc, vous voulez dire, on est tous dépendants, quoi, d'une façon ou d'une autre.
Exactement. On est tous, c'est pour ça qu'on vient en société, en fait. C'est parce qu'on a tous et toutes besoin les uns l'une des autres.
Oui, les institutions, c'est quoi ? C'est des endroits où on met des personnes en situation de handicap physique, mental, les deux ?
Un peu tout, hein. C'est, ouais, y a des institutions pour plusieurs types de handicap, mais en fait, c'est ce qu'on va appeler les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, les IME. Instituts médico-éducatifs, les ESAT, tous ces instituts en fait qui regroupent, voilà, des personnes sur un critère qu'est le handicap. Justement, ça peut être aussi des handicaps spécifiques, hein. Des institutions qui vont être plus voilà, pour des personnes avec des handicaps mentaux ou de traits de handicap psy ou de traits de physique. Et c'est des personnes qui vont vivre dans ces institutions, mais vraiment vivre, hein. Qui vont y dormir, y manger, y travailler, et voilà, qui se retrouvent du coup exclus en fait de la vie commune globale, de la vie sociale globale, qui sont dans des lieux en vase clos, dirigés par des valides, voilà, sous prétexte que c'est pour leur bien, que c'est des lieux qui les protègent. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est des lieux très violents. Par exemple, pour les questions de violence faites aux personnes assignées femmes, les institutions spécialisées, c'est juste un paradis, quoi, pour les personnes, les violeurs, les agresseurs. Donc en fait, on est très très loin de l'image de l'institution protectrice.
Il y a des gens qui pourraient dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des personnes handicapées si on ne les met pas dans les institutions spécialisées ?
Eh ben, on va proposer d'autres alternatives qui existent déjà dans d'autres pays. Hein. C'est pas, voilà, l'ONU travaille dessus. Il y a des textes qui expliquent ce qu'on peut faire. Créer des services de proximité, c'est vraiment, enfin voilà, développer le système de ce qu'on appelle l'assistance personnelle.
C'est quoi les systèmes d'assistance personnelle et de services de proximité ?
Ben, l'assistance personnelle, c'est une personne, ce que nous, en France, on appelle souvent des auxiliaires de vie. Bon, un peu plus développé, où on travaille un peu plus la question. C'est vrai que, bon, la question des auxiliaires de vie, c'est un débat aussi, dans le sens où c'est des métiers très précaires, qui ne sont pas du tout valorisés. Enfin, il y aurait tout à refaire, je pense, un peu sur ces questions-là. Mais pour que les gens comprennent un peu, c'est l'idée, quoi. C'est en gros le travail d'auxiliaire de vie en mieux payé, en mieux valorisé et en aussi plus bénéfique pour la personne handicapée qui est concernée, parce que c'est un travail vraiment, où l'idée c'est que la personne handicapée puisse être maîtresse de sa vie. L'idée c'est absolument pas que l'auxiliaire de vie se substitue à la personne, en fait, à qu'elle prenne des décisions pour elle. Il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là où, justement, dans l'assistance personnelle, c'est la personne handicapée qui reste maîtresse de sa vie, qui prend les décisions. Et il y a vraiment un travail d'équipe entre, d'un côté, on va dire un peu, c'est la personne qui prend les décisions, et de l'autre, l'assistance personnelle qui fait les gestes. Mais c'est absolument pas une surveillance comme on peut souvent l'imaginer dans le rôle d'auxiliaire de vie, justement. Si on veut vraiment une politique active de désinstitutionnalisation et de vie autonome, il faut tout mettre sur ça, quoi. Mais même encore aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des enfants qui ont des handicaps dont on sait qu'on peut vivre autonome chez soi, avec voilà, l'aide nécessaire, avec une politique de vie autonome, d'assistante personnelle et tout. C'est, on sait que c'est tout à fait possible. Et ben non, en fait, ces enfants-là, ils vont être envoyés encore dans des... Enfin, les médecins, en tout cas, vont inciter fortement les parents à les envoyer dans des institutions spécialisées en leur disant qu'ils ne pourront pas vivre chez eux tout seuls, que voilà, c'est pour leur bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme la France ne veut pas renier sa politique d'institutionnalisation, c'est quand même beaucoup d'argent qui passe dans ces institutions. C'est la moitié de la politique, enfin du budget loué au handicap. Donc en fait, du coup, il n'y a pas de moyen pour les AESH, il n'y a pas de moyen pour l'accessibilité des écoles normales. Non, voilà, parce que du coup, bah, l'argent, il y en a la moitié qui va au fonctionnement des institutions spécialisées qui coûtent très très cher, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que c'est souvent un argument qu'on entend aussi, c'est oui, mais la vie autonome, ça coûtera plus cher que la vie en institution. Non, parce qu'une institution, ça coûte énormément d'argent à faire fonctionner. C'est aussi tout un cadre administratif, les bâtiments à entretenir. Voilà, c'est pas que des auxiliaires de vie, entre guillemets, comme dans la vie autonome. Donc c'est pas moins cher que développer le mouvement pour la vie autonome.
Mais ça me rappelle les débats qu'il y a sur la fin de vie, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous nos vieux et les personnes âgées, et qu'on les met aussi dans des endroits spécialisés, à l'écart de tout, ça coûte très très cher, ils se font maltraiter, enfin très souvent.
C'est le problème de toutes les institutions spécialisées. Hein. De toute façon, je pense qu'il y a... Et c'est vrai que la question des personnes âgées, c'est une question qu'on peut rapprocher hein, de la question des luttes antivalidistes. Il y a des plein de points communs justement des valideuses. On en parlait de créer des ponts entre ces deux questions-là parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est clair. Mais après la spécificité souvent des personnes handicapées qui vivent en institution, c'est qu'elles peuvent y être depuis très très tôt, quoi. Elles peuvent y passer toute leur vie en fait. Contrairement à des personnes âgées qui vont y aller quand elles sont âgées, il y a des personnes handicapées qui passent toute leur vie en institution.
Il y a des gens qui diraient c'est peut-être qu'elles sont contentes.
Ah oui, il y en a qui disent ça. Hein. Sauf que je ne sais pas si on leur a vraiment demandé, et si surtout on leur a offert d'autres possibilités.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
Et donc la question qui revient tout le temps et qui intéresse énormément médiatiquement, c'est la question de la sexualité des personnes handicapées, comme l'avait dénoncé la militante Elisa Rojas, qui fait partie du collectif Le Clé, et qui disait, je la paraphrase, mais dans un texte génial, elle disait « Ah vraiment, ça n'intéresse personne de savoir si on peut manger à notre faim, étudier, ne pas être maltraité dans des institutions, pouvoir nous loger correctement, avoir un travail, enfin bref, vivre, quoi. Mais par contre, savoir si on peut ou pas baiser, ça, c'est vraiment, ça intéresse tout le monde, quoi. Comme si c'était le problème, en fait. » Néanmoins, c'est une question très très intéressante, pas par curiosité voyeurisme, parce qu'en fait, ça repose aussi, ça nous fait voir complètement autrement la question du travail du sexe, la question de l'autonomie corporelle et de cette histoire d'assistance sexuelle. En gros, pour replacer le débat, dans les années 2000, ça a été une revendication qui a été portée notamment par une association fondée par Marcel Nuss, qui était lui-même tétraplégique, et qui militait pour qu'il y ait un droit à l'assistance sexuelle pour les personnes handies, et qui formait des personnes pour ça, c'est-à-dire pour dire, bah voilà, les personnes handicapées devraient avoir accès à quelqu'un qui peut les aider à obtenir du plaisir sexuel. Et je suis très curieuse de savoir les différents positionnements qui existent dans le débat public en France, dans les milieux handicapés. Où est-ce qu'on en est en fait de ces questions et où est-ce que vous en êtes vous personnellement? Quels sont les camps en présence, quoi?
Alors, bah, du coup, le problème qui s'est posé avec la question de l'assistance sexuelle, c'est plus globalement la question du travail du sexe, en effet, vu qu'en France, voilà, le travail du sexe n'est pas reconnu.
Bah, les clients sont pénalisés,
oui,
en fait.
Voilà.
Ouais. Donc, ça pénalise les travailleurs du sexe. Et ça n'aide pas les personnes en situation d'esclavage prostitutionnel.
Non, voilà, ouais. Exactement. Et donc, du coup, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on devait créer une exception, en fait, pour les personnes handies, en tant que clientes, des travailleuses du sexe. Est-ce qu'on devait leur permettre, voilà, de pouvoir entrer en contact avec une travailleuse du sexe, d'être, voilà, dans un lieu où, du coup, la relation sexuelle pourrait avoir lieu, enfin, voilà, créer des conditions, en tout cas, qui permettent spécifiquement aux personnes handicapées d'avoir recours à des travailleuses du sexe. Donc, c'était ça le problème, en fait. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Parce que Marcel Nuss, sa revendication, c'est ça. C'est son association, la PASS, sa revendication, c'est de créer une exception à la loi contre le proxénétisme pour les personnes handies. Donc, en fait, il ne s'agit pas du tout de repenser les conditions du travail du sexe dans leur globalité, mais juste de créer une exception, en fait. Et ça, pour moi, c'est très problématique. Parce que je pense que justement, les corps handicapés n'ont pas à créer une inéthique en fait entre ce qui serait bien ou mal en termes de travail du sexe. C'est-à-dire que voilà, un travail du sexe qui s'adresse à des personnes handicapées, elle est très bien considérée. On va dire qu'elle fait une bonne action. Et puis on va continuer à stigmatiser en fait les travailleurs du sexe qui travaillent avec des personnes valides en disant qu'elles font l'activité mal. Donc en fait, on crée une ligne éthique comme ça entre le bien et le mal dans le travail du sexe en fonction que ça s'adresse à des clients, notamment hommes, handis ou pas. Et ça, pour moi, c'était pas possible parce qu'en fait, voilà, c'est encore une fois stigmatiser les corps handicapés, estimer que du coup, oui, ils sont pas désirables autrement que par une prestation tarifée. Enfin, toutes ces questions-là, en tant que personne handicapée, ça donnait un coup à mon estime de moi-même. Voilà, j'avais l'impression que, en fait, on ne pouvait pas me donner les conditions d'accéder à la société, voilà, d'aller en boîte de nuit, au café du coin, au cinéma, rencontrer des gens. Mais par contre, on me disait, bah, tu payes et tu pourras avoir une relation sexuelle. Même si, au final, la personne, elle est là pour ça et elle s'en fiche de toi. Enfin, elle te désire pas, quoi. C'est son travail. Donc moi, ça me plaisait pas du tout. Mais en même temps, j'ai toujours milité pour un féminisme qui reconnaisse les droits des travailleurs du sexe. Voilà, quand j'étais au NPA, on a milité aux côtés du STRAS, on a fait des actions communes à 8 mars pour toutes. Enfin, voilà, pour moi, c'est un point du féminisme très, très important. Donc du coup, il n'était absolument pas question de rentrer dans une perspective abolitionniste pour me dire contre l'assistance sexuelle.
Donc le STRAS, juste, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. Et vous ne vouliez pas être abolitionniste, c'est-à-dire rentrer dans le mouvement qui estime que le sexe et l'argent ne devraient jamais être mélangés, que la prostitution devrait être complètement interdite et qu'il n'y a pas de travail du sexe, il n'y a que de la prostitution, donc une forme d'esclavage.
Voilà, exactement. Que du coup, ça prive en fait tous les travailleurs du sexe de leur libre arbitre, de pouvoir décider ce qu'elles font de leur corps, que voilà, elles sont forcément soumises à des réseaux, des proxénètes, etc. Donc ça, c'est courant abolitionniste. Donc voilà, en ayant milité aux côtés du STRAS, je voyais très bien que c'était pas le cas et qu'il y avait des militantes à travail du sexe qui apportaient des réflexions féministes hyper intéressantes et que du coup, pour moi, il était hors de question de militer dans un courant qui exclut ces personnes du mouvement féministe. Donc du coup, j'étais un peu dans un dilemme où j'étais contre l'assistance sexuelle en tant que personne handicapée, mais j'étais pour la reconnaissance du travail du sexe en tant que militante féministe. Mais du coup, je ne trouvais pas forcément d'alliés autour de moi qui se trouvaient dans la même position. C'était souvent... soit les personnes handicapées contre l'assistance sexuelle étaient dans une mouvance abolitionniste, ou soit... En fait, moi, je ne suis pas contre, dans l'absolu, une spécialisation dans le domaine du travail du sexe, mais il faut que ça s'inscrive, en fait, dans une dépénalisation globale du travail du sexe. Ça pourrait être... ça pourrait être une spécificité parmi d'autres, en fait. Des personnes travaillent du sexe qui vont préférer travailler avec tel type de client ou tel type de cliente. Pourquoi pas. Mais ça doit vraiment s'inscrire dans une politique globale de dépénalisation du travail du sexe. C'est pas juste spécifiquement lié au handicap, quoi.
Oui, parce que sinon, ça ne fait que renforcer, encore une fois, c'est ça, cette binarité de celles qui sont handicapées, celles qui le seraient soi-disant pas, enfin, ça ne va pas.
Ben oui, c'est ce que ça renforce cette frontière éthique entre ce qui est bien et mal, suivant qu'on s'adresse à des clients handicapés ou pas, quoi.
Dans le livre, vous dites que c'est de réfléchir sur ce qu'est un corps sain ou ce qui est considéré comme un corps sain dans la société qui permet aussi en fait, de comprendre plein d'autres systèmes d'oppression. En fait. La façon dont on pense la race dans notre société au sens social, la façon dont on pense le genre, évidemment, là on en a parlé, mais aussi la classe sociale, l'âge et plein d'autres discriminations. Et est-ce que vous pouvez nous ouvrir les yeux à ce sujet ?
Cette question très médicale de ce que c'est qu'un corps sain ou à l'opposé du coup malsain, en fait ça permet d'opprimer tout un tas de personnes qui à la base justement semblent avoir des vécus très différents parce que justement elles ne correspondent pas à des normes médicales très oppressives. Par exemple l'esclavage a été beaucoup justifié par des raisons médicales de corps sain, de corps malsain. C'est une notion qui a beaucoup servi des systèmes esclavagistes, tout comme il a servi le patriarcat, avec tout ce qui était lié au corps féminin, aux règles, tout ça, aux grossesses. Après, on a vu aussi la question d'hystérie. C'est quelque chose qui lie assez bien aussi les questions validistes et patriarcales sexistes, quoi. Comment on a essayé de faire taire les femmes, justement, sous couvert de handicap, de raisons médicales, de corps malsain, d'esprit malsain. Pareil pour aussi tout ce qui est queerphobie, enfin, tout ce qui est question LGBT, QRA+, comment on a pathologisé les corps, par exemple, des personnes intersexes. Enfin, on pathologise des corps qui ne rentrent pas dans des normes médicales. Pour le coup, j'ai envie de dire validistes. Ça touche à la base des personnes qui ne sont pas définies comme handicapées, que ce soit des femmes, des personnes queer ou des personnes racisées, mais c'est qu'en fait, c'est des normes validistes qui les oppriment.
Donc face à ça, quand on subit des oppressions comme ça, on peut se dire qu'on peut tenter de se rendre le plus possible conforme à la norme dominante, comme ça on souffre moins, d'essayer de se rendre invisible, d'essayer de compenser d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est magnifique avec toutes les pensées anti-oppressives, avec le féminisme, l'anti-validisme, l'anti-racisme et tout, c'est de dire qu'il n'y a pas du tout, c'est une impasse en fait, d'essayer de se rendre conforme à la norme et qu'on peut au contraire inventer complètement autre chose.
Mais surtout, en fait, être totalement conforme à ces normes oppressives, c'est illusoire en fait. Parce que personne n'y arrivera jamais, je pense. Et donc, en fait, il faut arrêter de lier notre bonheur et notre bien-être à cet idéal qu'on n'arrivera jamais à atteindre.
Mais par exemple, que quand on est un homme handi, c'est en étant le plus possible comme un homme valide qu'on sera plus heureux, par exemple.
Ben ça, c'est l'idée validiste, oui, qui veut qu'un homme handi doit correspondre à l'image de la masculinité valide. Mais en fait, c'est une impasse. C'est une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'en poursuivant ce but, on s'interdit tout un tas d'autres possibilités. Enfin, en tout cas, on ne les cherche pas. On passe à côté. Parce que du coup, on est tellement omnubilé par cette quête sans fin de la validité, là, en l'occurrence, de la valido-virilité, comme dit Pierre Dufour, qu'au final, les personnes oublient d'inventer d'autres façons d'exister en fait en tant qu'homme dans la société, quoi. En tant qu'homme handicapé, mais voilà, en tant qu'homme aussi. Handicapé certes, mais en tant qu'homme aussi.
Mais c'est ça, je me dis en fait, bien sûr que du point de vue du handicap, en fait, ça peut aussi révolutionner complètement la masculinité. Il y a énormément de pistes extrêmement intéressantes en fait, et beaucoup plus créatives que celles de la valido-virilité.
Bah oui, c'est Pierre Dufour, il en parle aussi dans son livre, et Zig Blanquer aussi en parle dans ses écrits, voilà, de trouver Marcel Mauss aussi, il en a parlé, hein, voilà, de trouver d'autres moyens d'être des hommes, certes handicapés, mais d'être des hommes quand même dans la société. Et il y a d'autres façons d'exister voilà, en tant qu'homme handicapé.
Et aussi parce que ce n'est pas que des choix individuels, en fait. C'est quand même une culture collective qui permet que ça émerge. Je pensais par exemple à la construction de la non-désirabilité, par exemple, des hommes handis. Parce qu'en fait, si on n'en voit jamais, si le handicap est toujours rejeté du côté du malheur, de l'abjection et tout, bah, bien sûr que ça ne construit pas du tout la désirabilité. Donc en fait, ça nous crée un rapport au corps qui est super validiste et qui a aussi un impact dans nos désirs et nos vies sexuelles. Et donc c'est aussi des combats collectifs en fait, à mener pour changer la culture.
Ah bah oui, clairement. De toute façon, les représentations des personnes handicapées, donc en l'occurrence des hommes handis, elle est à refaire collectivement. Hein. C'est, quand on parlait de validisme, il y a aussi le validisme par exemple dans la culture, avec toutes les représentations cinématographiques ou dans les livres, etc., qui sont très très validistes et qui reprennent justement ces idées voilà, de l'homme handicapé abject, pas beau, indésirable, ou qui va être sauvé par cette infirmière qui, elle, grâce à son grand cœur, va trouver quand même un sens à sa vie en aidant ce pauvre homme handicapé. C'est des scénarios, des films très, très fréquents quand on parle des questions de handicap et du coup de validisme. Mais tout ça, c'est la culture valide en fait.
Mais dans Intouchables, par exemple, François Cluzet, c'est une figure positive, non ? Cet homme handi dans son fauteuil. Vraiment, je pose que des questions à moitié sincères. C'est très bizarre. Mais bon, c'est pour vous faire réagir aussi.
Bon, je vous cache pas qu'Intouchables, j'ai vu il y a très longtemps et il m'a pas laissé une trace indélébile. Ce que je retiens, c'est que c'est quand même un homme très riche, donc ce qui n'est pas du tout le cas de, je pense, 99% des personnes handicapées. Donc, la précarité est quand même un très, très gros facteur de sur-handicap. Hein. C'est, enfin, je veux dire, deux personnes qui ont le même type de handicap avec les mêmes conséquences dans leur quotidien. Vous en prenez une qui vit avec la hache et vous prenez Philippe Diborgio, millionnaire, ça va pas du tout avoir les mêmes effets. Hein.
La hache, c'est donc l'allocation pour les adultes handicapés,
voilà,
qui se monte à
900 euros maximum,
voilà.
Donc en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Donc en fait, c'est une allocation qui est destinée à des personnes qui, par définition, ne peuvent pas travailler et qui seront donc condamnées à vivre toute leur vie en dessous du seuil de pauvreté. Donc inutile de dire que ça rajoute une bonne couche de handicap et de validisme, surtout à la situation existante déjà. Donc déjà, ça, c'est, enfin, les questions économiques et de précarité, je pense que c'est aussi une question centrale des luttes antivalidistes. Dans les préconisations de l'ONU pour sortir de l'institutionnalisation, la question de la précarité, elle est énorme. Et il faut pouvoir que les personnes elles aient des ressources économiques satisfaisantes. Parce qu'en fait, l'ONU estime que la précarité est une des premières sources d'institutionnalisation, en fait.
C'est-à-dire ?
C'est les familles les plus précaires qui envoient leurs enfants dans les institutions spécialisées.
Et quel lien vous faites entre la paternité, la parentalité et le handicap ?
Après, la parentalité, comme tout domaine, est très imprégnée de validisme. C'est-à-dire qu'on estime que les personnes handicapées ne peuvent, que ce soit en termes physiologiques, c'est-à-dire qu'on estime que, comme ils ont un corps souvent déformé, atrophié, machin, ils ne peuvent pas physiquement être parents.
Par exemple, vraiment, moi, je ne savais pas qu'en fauteuil, vous pouviez être enceinte. Parce que je me dis, j'en sais rien pourquoi je pensais ça, en fait. Je me dis, ça doit être impossible. Mais en fait, non, vous pouvez très bien être enceinte. Vous avez été enceinte, vous avez donné naissance à un enfant.
Ouais, je ne suis pas la seule. Hein.
Et vous n'êtes pas du tout la seule.
Ce n'est pas du tout un exploit ou une situation particulière. C'est des femmes enceintes en fauteuil, il y en a plein. Du coup, cette incapacité déjà physiologique qu'on attribue aux personnes handicapées. Et puis après, il y a aussi tout l'incapacité sociale. Enfin, le fait que, comme c'est des personnes qui vont être dépendantes, justement, qui ne vont pas pouvoir s'occuper d'elles-mêmes dans l'imaginaire collectif, du coup, elles ne vont pas pouvoir s'occuper d'un tiers d'autrui. Si on se concentre plus sur la question des hommes handis, il y a forcément déjà cette question de la puissance sexuelle et tout ça. Donc, comme je disais, il y a souvent cette idée que physiquement, physiologiquement, ils ne pourront pas être pères parce que du coup, ils n'ont pas de sexualité ou leur corps ne leur permet pas.
Oui, ils ne sont pas capables d'avoir une érection, ou ils ne seraient pas capables d'éjaculer, ou ils ne seraient pas capables d'avoir un certain
Exactement.
Nombre de fonctions.
Outre ça, il y a l'idée qu'ils ne pourront pas assurer ce rôle du père protecteur, celui qui a l'autorité, qui conduit son foyer, etc., qui assure le revenu aussi de son foyer, etc., etc. Donc,
et qui assure l'autorité aussi, d'un coup, je viens de réaliser, en fait, dans l'idée que l'autorité, elle s'impose par la force et par la contrainte physique.
C'est ça. C'est exactement ce que dit Marcellus. Il explique tout à fait ça. Il explique, mais est-ce que la paternité, c'est attraper son enfant, lui faire mal, l'attraper violemment, lui montrer...
Ou juste la menace l'attraper violemment et lui mettre une fessée. Ouais.
Lui montrer sa puissance physique pour lui faire peur. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, que les pères veulent pour élever leurs enfants, quoi. Donc lui, il explique qu'il a développé d'autres façons d'être présent à ses enfants et que ça marche très bien. Il explique que lui, il préfère persuader par la parole quand il veut pas que ses enfants, il voulait pas que ses enfants fassent quelque chose. Il préférait leur parler, leur expliquer pourquoi il fallait pas faire ça, etc. Plutôt que de s'imposer physiquement, en fait. Et du coup, il développe d'autres alternatives à la paternité que celle qui veut qu'on s'impose par la force physique, quoi. Et apparemment, ses enfants vont très bien et tout s'est très bien passé. Donc,
Oui, là encore, je trouve que c'est un exemple concret de comment on peut réinventer en fait la norme majoritaire à partir d'une expérience de la minorité et de la réinventer pour le bien de tout le monde. Qu'en fait, du coup, cette paternité-là, exercée par Marcellus, qui était handicapé, tétraplégique, qui pouvait pas bouger et tout ça, en fait, elle est infiniment plus inventive, créative, juste, moins douloureuse pour les enfants que la paternité qui est reproduite de génération en génération, qui implique quand même le fait de terroriser les enfants d'une façon ou d'une autre. Ou si c'est pas les terroriser, d'imposer son autorité par la menace en faisant planer la menace de la punition physique, par exemple.
De toute façon, on voit que cette parentalité, elle se développe, justement, cette parentalité alternative à tout ça, elle se développe de plus en plus, de façon générale. Hein. Donc, en fait, on voit que les personnes handicapées, elles ont, et là, en l'occurrence, les pères handicapés, ont développé déjà bien avant que ça prenne un peu plus d'essor aujourd'hui, d'autres alternatives. Et oui, encore une fois, bah, clairement, on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour notre bien commun, en fait, pour penser notre parentalité à toutes et tous. Façon commune, que comment on veut élever nos enfants, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre.
Et ça vaut pour plein d'autres domaines aussi, non ? Parce que là, on parle de la parentalité, mais de même, qu'est-ce qui, dans la culture handi, vous semblerait bénéfique pour la majorité ? Je sais qu'on peut me reprocher parfois une vision un peu utilitariste, comme ça, des cultures minoritaires, mais je crois pas que ce soit un truc d'utilité, c'est que je pense vraiment que les initiatives les plus intéressantes, les perspectives les plus évoluées, en fait, sur tout un tas de sujets, se trouvent, en fait, dans les cultures minoritaires. Je pense, par exemple, que les cultures queer, en termes de sexualité, de relations, de rapport au monde, tout, sont infiniment plus intéressantes que la culture straight, c'est que la culture des hétéros, quoi. Ça me paraît évident, et je pense que c'est la même chose pour... la culture handi, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah oui, je pense qu'en fait, dès qu'on a cette capacité à sortir, mais c'est compliqué, hein, et ça se fait collectivement, mais qu'on arrive collectivement à sortir justement de ce diktat des normes majoritaires, on crée vraiment un espace pour créer d'autres alternatives qui sont tout à fait possibles. C'est juste qu'il faut leur laisser l'espace pour exister. Du coup, bah, il faut sortir de cette idée que on doit poursuivre les idéaux oppressifs dont on a parlé.
Pour aller plus loin, quel livre ou œuvre vous avez envie de recommander sur la question de la virilité, de la masculinité, du handicap ?
Bah, je pense que les textes de Zig Blanker, par exemple, sont très intéressants. Il aborde ces questions et puis d'autres, voilà, d'autres choses, notamment à travers son livre qui est sorti l'année dernière, Nos existences handies, chez Monstrographe. Où il y a des textes d'ailleurs qui sont coécrits avec Pierre Dufour aussi, pareil, qui a écrit un bouquin plus vieux, tiré de sa thèse, il me semble, qui s'appelle L'expérience handie, qui traite spécifiquement de l'expérience des hommes en fauteuil et de leur masculinité, comment ils vivent leur masculinité. Donc voilà, pas mal de témoignages qui est aussi intéressant. Voilà, après, il y a le travail de Marcel Nuss aussi, voilà, qui, même si je ne suis pas toujours d'accord avec toutes ses positions, mais sur la masculinité, et notamment justement sur les possibilités de créer d'autres masculinité autre que celle valido-virile a aussi des récits très intéressants sur sa façon d'occuper l'espace en tant qu'homme en fauteuil, le rôle du regard, etc. Toutes ces réflexions sont aussi très intéressantes.
Et en termes d'œuvres d'art, est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez recommander ?
Bah, sur les questions féministes, qui croisent les questions du coup validistes et sexistes, il y a une très bonne série qui était diffusée sur Arte, je ne sais pas si elle y est toujours, qui s'appelle 1m20 et qui raconte l'histoire d'une ado du coup handicapée, je crois que c'est en Amérique du Sud, je crois que c'est en Argentine, il me semble. Et qui, du coup, va faire avec son groupe d'amis une révolution féministe dans son lycée. Mais du coup, en tant que meuf handi, forcément, va se confronter aussi aux questions d'accessibilité, de prise en compte de sa situation de meuf handi, comment sensibiliser ses amis à ces questions-là. Donc, c'était assez intéressant comme série.
Ok, super. Merci beaucoup. Merci Charlotte Tiseux.
Merci.
Merci beaucoup à Charlotte Puiseux de nous avoir reçus chez elle avec l'ingénieuse du son Elisa Grenet qui a enregistré cet épisode. Je rappelle le titre de son essai dont je vous recommande fortement la lecture, De chair et de fer. C'est paru aux éditions La Découverte. Je vous conseille aussi d'écouter le podcast Dear Valid People de Damien Farjou. Merci à lui ainsi qu'à Quentin Darc, qui est un autre militant anti-validiste, pour leur patience et leur ténacité à m'informer sur ces enjeux, même quand j'avais plein de questions bêtes ou que j'arrivais pas à comprendre.
On vous met aussi d'autres recommandations sur l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio, avec toutes les références citées pendant cette conversation avec Charlotte Puiseux. On tente, dans la mesure du possible, de proposer désormais des transcripts des nouveaux épisodes des Couilles sur la table pour les rendre accessibles. Sachez qu'ils existent maintenant pour toute la saison du Cœur sur la table. C'est Naomi Titi qui fait ce travail et bien d'autres travaux, notamment la production et le montage de cet épisode. Merci aussi à Angèle Briard-Marchand pour son aide, à Paul Berthiaud pour la réalisation. Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio, à la communication Lise Niederkorn et Jeanne Longuigny. Continuez de nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail, on vous lit avec attention et vos retours nous sont précieux. Et continuez de faire circuler ces épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 000 lieues sous ma chair » dans le podcast « Le cœur sur la table ».
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.